Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 67, Splendeur du Tamil Nadu. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et je ne vous cache pas que ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Après quoi ? Environ 4 mois de silence, je sais. Je me suis accordé une longue pause estivale dans le podcast qui m'a permis aussi de prendre un peu de recul sur son avenir et de faire des plans sur la comète. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler très bientôt. Mais pour l'heure, notre grand voyage en Asie continue, je n'allais quand même pas vous laisser comme ça. Et c'est en Inde que l'on retourne aujourd'hui. La dernière fois, c'était à Benares que l'on s'était arrêté dans l'épisode 57 de juillet 2018. Ça commence à dater un petit peu. Et pour continuer notre grande découverte de ce pays continent aux mille facettes, on va se rendre cette fois dans l'état fascinant du Tamil Nadu, au sud du pays. En compagnie, vous vous en doutez, de celui qui nous régale régulièrement dans le podcast depuis le tout début. Je veux parler bien sûr de Thierry Robinet. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Bienvenue à nouveau dans le podcast et bienvenue au Tamil Nadu. Eh bien bonjour Thierry, bienvenue sur les routes de l'Asie. Voilà, ça fait vraiment, comme à chaque fois, très plaisir de te retrouver dans l'émission. Quand on a commencé ensemble à parler d'Inde, c'était dans l'épisode 36 sur le Rajasthan. On savait que c'était un grand voyage qui allait nous porter loin, avec beaucoup d'interviews à prévoir, tant ce pays est immense et fascinant. Fascinant comme cet état du Tamil Nadu qui occupe presque toute la pointe sud du pays. À l'ouest, c'est le Kerala, où d'ailleurs on s'est aussi arrêté dans un épisode précédent. Mais voilà. Le Tamil Nadu, c'est un arrêt absolument incontournable en Inde, un petit peu le penchant du haut sud de ce que le Rajasthan est au nord, je pense qu'on peut dire ça, de par sa richesse indescriptible avec des temples et des vestiges à n'en plus finir, très différent par rapport à ce qu'on voit ailleurs en Inde, ses villes saintes, sa connotation très religieuse, beaucoup d'autres curiosités à découvrir. Moi j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'y aller pendant un voyage d'une dizaine de jours et c'est vrai que j'en garde un très très bon souvenir. Déjà il faut expliquer quelque chose quand on parle du Tamil Nadu, c'est qu'on est là chez les Dravidiens. Ça a son importance car c'est une culture à part dans le pays, donc peut-être commence par nous expliquer ce que sont les Dravidiens.
Alors bonjour Romain, bon, aujourd'hui nous allons aller en Inde du Sud et notamment donc l'état du Tamil Nadu. Donc le Tamil Nadu qui est peuplé de Tamouls, hein, qui est le peuple principal. Et avant tout, le Tamil Nadu, c'est un petit peu le berceau des anciennes civilisations et de cultures dravidiennes. Alors qui sont les Dravidiens ? Les Dravidiens sont des gens qui sont non-himalayens ou non-ariens et qui vivent notamment donc dans la partie de l'Inde du Sud et pour la plupart quand même dans cet état du Tamil Nadu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'Inde dravidienne, ce qui veut dire l'Inde du Sud en fait, mais surtout dans l'état du Tamil Nadu. Donc cet état du Tamil Nadu est à plus d'un titre très intéressant, parce qu'il y a, je pense, d'abord il y a des paysages somptueux. Quand on voit par exemple le fleuve Kaveri, les gens disent la rivière Kaveri, mais moi je dis un fleuve, parce qu'il y a des chutes sur la Kaveri qui sont absolument extraordinaires. Moi ça m'a fait penser aux chutes du Niagara, ou même en Afrique, quand on est sur les chutes du Zambèze. Bon, à petite échelle, mais alors l'eau descend tellement, il y a un débit extraordinaire que franchement ça vaut la peine d'aller voir ces chutes de la Kaveri. Hormis cela, quand on les côtes... dramatique, je dirais, par certains côtés, parce que il y a des rochers qui sont comme ça au bord des côtes, il y a des plages de sable blanc qui sont fabuleuses. À partir du moment où on quitte l'Orissa et qu'on descend donc en direction de Madras, vous avez des côtes de dizaines de kilomètres de sable blanc où il y a les pêcheurs qui vont tirer leurs longs filets en chantant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire sur le Tamil Nadu. Le Tamil Nadu, en fait, va jusqu'à Kanyakumari. Hein, qui est le point le plus au sud de l'Inde, donc ça fait partie du Tamil Nadu, et aussi notamment il y a cette presqu'île de Rameshwaram qui est le pont finalement entre l'Inde du Tamil Nadu jusqu'au Sri Lanka. Donc cette presqu'île de Rameshwaram, dans son histoire religieuse, antique, donc est célèbre aussi dans les versets du Ramayana. Car quand le prince Rama voulait délivrer la princesse Sita, qui était donc, c'était sa princesse, eux, ils vivaient dans l'Inde centrale, le démon Ravana avait emmené Sita au Sri Lanka. Et c'est grâce à Hanuman et son armée des singes, parce que les singes sont intelligents, sont espiègles. L'armée des singes a fait un pont entre Rameshwaram et l'entrée sur l'île de Sri Lanka, où Rama ensuite a pu passer sur le dos de l'armée des singes. Il a combattu Ravana et il a ramené sa princesse. Donc Rameshwaram est un point très important dans l'Inde du Sud. Très très important parce qu'il est justement allié à l'historique justement des grands épisodes du Ramayana.
D'accord. Eh bien voilà, on arrive au Tamil Nadu. On va commencer bien sûr par le point d'arrivée logique qui est sa capitale, Chennai.
Bon, à côté de ça, oui, quand on commence un voyage au Tamil Nadu, on commence par sa capitale, Chennai. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire Madras parce que je suis toujours un petit peu de la vieille génération et j'aime bien garder les anciens noms que l'on a toujours connus depuis des siècles. Bon, c'est une ville qui n'a pas une importance capitale, peut-être comme les Bombay ou Delhi, mais quand on a vu le Fort Saint-Georges et la station de train, donc de type très britannique, c'est vrai qu'après, on a tendance à se promener sur la marina, où là, bon, il y a un petit peu toute la nouvelle vie. Une marche le long de la marina peut être très sympa, où il y a des parcs, etc., des statues. Mais sinon, quand on sort de Madras en direction du sud, vers les plages de Mahabalipuram et le complexe du 7e siècle, patrimoine mondial de l'UNESCO, de cette ville antique, on passe à côté de la cité du film, la MGR, donc qui est le pendant du Bollywood de Bombay. Donc c'est une cité que l'on peut visiter assez facilement et c'est comme si on était un peu à Hollywood, on voit tous les décors, comment les films sont montés. En plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est que par rapport peut-être aux États-Unis, quand on rentre à Hollywood, il nous est carrément impossible de rencontrer une star. Alors que là, à Madras, plus facilement qu'à Bombay, vous avez les artistes qui sont en train de filmer, vous pouvez venir à côté d'eux, vous pouvez leur serrer la main, ils sont contents de discuter avec vous. Donc finalement, une balade à cette MGR cité du film vaut la peine. En plus, c'est vraiment à l'extérieur de Madras et c'est sur la route de Mahabalipuram, que l'on appelle aujourd'hui Mamallapuram, complexe du 7e siècle, vraiment extraordinaire, où là, il y a des tas de shrines, des tas de temples qui sont vraiment taillés dans le roc. Donc, il y a 7 monolithes qui sont taillés dans le roc, que l'on appelle les 5 ratas. Ces 5 ratas sont les 5 frères Pandava. Les Pandava, c'était des héros du Mahabharata. Autant d'un côté, on peut parler du Ramayana comme Rameshwaram, et là, les 5 ratas, dans la cité antique de Mamallapuram, donc ce sont les 5 Pandava qui sont les héros du Mahabharata, avec la reine notamment qui dirigeait tout ça, la reine Draupadi. Ces temples, impressionnants, je dirais, en plus en grès, en pierre de sable, donc ils trônent comme ça au bord de la plage. Il y a une plage extraordinaire à Mahabalipuram où vous pouvez avoir les pêcheurs avec les femmes en sari qui viennent avec leurs paniers attendre que leur marin de mari ramène les bateaux, ramène les grands filets où ça va durer des heures. Ils vont tirer comme ça les poissons au bord juste à côté de ces 5 temples. Bon, c'est quelque chose d'assez impressionnant, surtout au soleil couchant. Et si on s'approche de plus près et qu'on regarde ces temples, si vous regardez parmi les 5 ratas, vous regardez le rata d'Arjuna, qui est un des héros du Mahabharata. Donc on peut voir la finesse de le travail de la pierre, la finesse des colonnades, la finesse des personnages. Donc c'est assez superbe. Et à côté, il y a le temple du roi Narasimha, qui est un personnage important dans la mythologie, notamment hindoue dans cette Inde du Sud, avec ses coupoles, avec les piliers, avec toutes ses décorations. Bon, personnellement, Mahabalipuram reste un des bijoux du Tamil Nadu.
Ouais, non, vraiment, je confirme, un très beau site. C'est vrai qu'avec le soleil couchant, en fin de journée, il y a moyen de faire des très très belles photos en plus. Vraiment un site impressionnant qui est l'Inde ancienne, l'Inde historique. On parle d'un site qui a quoi, presque 1500 ans, donc c'est quand même très impressionnant. « Bon, alors on va continuer la route et on va arriver sur un endroit que voilà, nous, Français, on connaît bien.
Passé Mahabalipuram, finalement, quand on continue la route sur le sud, il y a une ville qui est extraordinaire, bien connue des Français, c'est Pondichéry. Donc maintenant, aujourd'hui, elle s'appelle pareil, les noms ont tout changé en un, elle s'appelle Pondichéry. Bon, j'aime bien Pondichéry pour ce qu'elle représente, parce que quand on est dans la rue et on rentre dans cette petite ville, c'est finalement minuscule, c'est un comptoir. Comme ailleurs, près de Calcutta, vous aviez Chandernagor, ou comme les Portugais avaient Goa, ou avaient d'autres territoires comme ça, qui étaient toujours semés autour de la mer Arabique ou du golfe du Bengale. Pondichéry a eu une place très importante lorsqu'elle a été construite au XVIIe siècle, et notamment donc le personnage qui a créé Pondichéry s'appelait Joseph-François Duplex, qui était un redoutable marquis. Parce que paraît-il que quand il donnait des ordres, le marquis de Duplex, tout le monde devait s'y plier. Et il a été gouverneur aussi donc de Pondichéry au XVIIIe siècle, dans les années 1750 à peu près. Et c'était un homme très énergétique. Alors quand on se promène dans Pondichéry, d'abord c'est une ville en carré. Donc les rues, c'est un peu comme New York si vous voulez. Première rue, deuxième rue, troisième rue, quatrième rue. Et après, première avenue, deuxième avenue, troisième avenue. Donc c'est rigolo, si on a compris un petit peu comment ça se passe, après il est très facile de s'y retrouver. Alors moi j'aime bien Pondichéry parce que grâce à mon amie Anne-Marie de Namasté Travel à Delhi, toute première fois que je suis allé à Pondichéry, elle m'a dit « Tiens, tu vas aller dormir, je vais t'envoyer dormir chez la petite fille de Sacha Guitry ». Qui a une mansion, une maison coloniale de toute beauté, très stylée, qui n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Et cette personne, en plus, la petite fille de Sacha Guitry, aujourd'hui, elle fait des parfums, toutes les senteurs et tout, qu'ils envoient en Europe, notamment sur la France et ailleurs. Et je dois dire que ça a été mon coup de cœur de Pondichéry. Le départ de cette maison a été après, pour moi, la découverte de la ville, où après, quand on part, on voit des gendarmes au carrefour des rues avec le képi sur la tête. Vous regardez le nom des rues. Alors, il y a le nom des rues de tous les grands, les grandes personnalités du 17e, du 18e, qui ont fait l'histoire de la France. Donc c'est sympa. Et en plus, il y a un endroit qui est extraordinaire, notamment donc, à Pondichéry, en dehors donc, de tous ces bâtiments français, en dehors du style de France, en dehors de ces petits cafés où on peut s'asseoir, bon, son petit café avec son croissant et sa petite baguette, je dirais. On a l'odeur en plus. Quand on se promène dans Pondichéry, on a l'odeur de tout ça.
Ouais, non, c'est vraiment un lieu intéressant. C'est une atmosphère qui se dégage là-bas qui est vraiment particulière. Bien sûr, quand on est français, c'est encore, voilà, ça prend encore plus de saveur, on va dire. Mais en plus, c'est très photogénique hein, pour se balader, flâner dans les rues avec ton petit vélo, sa bicyclette. Il y a moyen de faire des petites photos sympas. C'est vraiment très agréable.
Et oui, c'est très photogénique. On peut y aller à pied, c'est très facile. Moi, je trouve qu'à pied, c'est top parce que ça vous permet de regarder toutes les entrées, les portes des maisons, les portes qui sont travaillées avec encore des inscriptions. Duplex était ici, le général, un tel, y a passé une partie de sa vie, etc. Les couleurs des maisons en jaune. Oui, c'est extraordinaire. Et ce qu'il y a d'intéressant, notamment à Pondichéry aussi, c'est l'ashram de Sri Aurobindo. Bon, Sri Aurobindo qui est un des grands poètes et un des grands sages de l'Inde, connu dans toute l'Inde. Il a vécu ici une partie de sa vie à Pondichéry. Aurobindo était un Bengali, un poète et philosophe bengali, qui a beaucoup, au début du XXe siècle, a beaucoup œuvré contre le colonialisme britannique, à tel point même qu'il est devenu un peu extrémiste. Et qu'il a combattu, et qu'il a combattu surtout par les mots, et que les Anglais voulaient le faire prisonnier, donc il a réussi à fuir et il s'est installé ici à Pondichéry, qui était un comptoir français. Donc les Anglais n'ont pas osé venir le chercher dans un comptoir d'un autre pays pour éviter des mauvaises relations entre des pays proches. De par sa philosophie déjà qu'il avait au départ, est devenu vraiment un gourou. Quelqu'un que l'on venait écouter parce qu'il prêchait de longs discours sur la paix, la tolérance. Et un beau jour, la personne qui est devenue son disciple, Mère, Mother, comme on dit en anglais, qui était une femme qui s'appelait Myrta Alfassa, qui était parisienne. Un jour, quand elle est venue en voyage avec son mari au début du XXe siècle à Auroville, elle a rencontré Aurobindo et à partir de ce moment-là, elle ne l'a plus quitté. Et elle s'est totalement dévouée à sa cause et mère est devenue quelque part, oui, le parfait disciple du maître. Donc c'est ça un peu l'histoire de Sri Aurobindo. Ils ont monté un ashram qui ensuite, l'Inde connaît des ashrams de Sri Aurobindo par dizaines à travers tout le pays. Mais au départ, l'ashram de Pondichéry est la plus importante. Donc si on veut avoir lire des livres au sujet d'Aurobindo et de mer, bon, en France, il y avait un personnage qui était extraordinaire, qui a écrit justement sur toute la mythologie hindoue et sur les grands poètes et les grands écrivains indiens, c'est Jean Herbert. Donc, sur ses traités de l'hindouisme et ses traités de la tolérance et tout, je vous conseille de rechercher les livres de Jean Herbert. C'est absolument fabuleux comment c'est écrit. Voilà ce que j'avais à dire sur Sri Aurobindo. Donc quand on explore Pondichéry, bien sûr, il y a le musée. Le musée qui est intéressant parce que avec la librairie de Romain Rolland, donc, qui est un grand écrivain français, y a passé une partie de sa vie. Donc il a écrit beaucoup sur Pondichéry et il a laissé des traces donc, par cette librairie. Donc ça vaut le coup d'aller voir ça. Bien sûr, il y a des églises, hein, l'église du Sacré-Cœur de Jésus, par exemple. Le jardin botanique, qui est carrément presque au centre de Pondichéry. Plusieurs bâtiments gouvernementaux de style très français. Puis à côté de ça, ce qui est bien, c'est que vous avez l'Inde qui est présente aussi dans Pondichéry. C'est qu'il y a des entrées, des portes très indiennes, il y a des temples. Voilà, donc c'est tout un ensemble, un mélange de choses qui fait que ça vaut la peine, franchement, de passer 48 heures à Pondichéry au moins. En plus, vous avez quelque chose que j'allais oublier de dire, c'est l'école française d'Extrême-Orient. Qui est très connu de gens érudits ou qui au 19e siècle ou au début du 20e siècle avait une importance capitale. Maintenant, on a un peu oublié tout ce passé colonial, donc c'est, peut-être que les gens connaissent moins maintenant. Mais l'école française d'Extrême-Orient qui était à Paris était après dans toutes les colonies françaises sur cette planète, quoi. Donc ça vaut le coup d'y passer et de retrouver un petit peu... l'histoire, le côté sociologique un peu, même archéologique parfois, de ce qu'a été l'empreinte de la France dans ces terres du bout du monde.
Ouais, tout à fait, c'est indispensable de s'arrêter à Pondichéry, surtout quand on est français, quand on voyage au Tamil Nadu. Alors il y a un autre endroit qui est voilà, très différent mais qui est juste à côté, qui est Auroville. Il faut que tu nous en parles quand même parce que là c'est aussi une curiosité unique au monde en plus.
À côté de ça justement, quand on parle d'Aurobindo, il y a à quelques kilomètres de Pondichéry, à 8 kilomètres exactement, une ville qui a été fabriquée, la cité de la lumière ou la cité de l'espérance, qui s'appelle Auroville. Je suis allé plusieurs fois à Auroville. Puisque je suis allé plusieurs fois à Pondichéry, donc et d'ailleurs je vais retourner à Pondichéry, je ne sais pas quand, mais incessamment sous peu, tellement que j'aime le coin. Bon, Auroville, alors, est une ville d'espérance, mais c'est une ville, moi, qui m'a... Je ne sais pas trop comment raconter Auroville, parce qu'il n'y avait rien, c'était un village, et un beau jour, il y a des Occidentaux, beaucoup de Français, des Anglais, ce que le monde hippie finalement a connu, des érudits, des gens intelligents, des gens qui avaient de l'argent. Ils ont décidé, ok, on va créer une ville qui n'existe pas, on va la créer, un autre modèle à nous, une ville où n'existera ni l'argent, où n'existera ni le pouvoir, où n'existera ni le chef. Une ville où tout sera pris en commun, où chacun va travailler en commun avec les autres. Un petit peu comme moi ici à Bali, quand je travaille pour mon banjar, c'est un système communautaire. Et au départ, bon, il fallait de l'argent pour les constructions, parce que le ciment, le béton, les toits, les briques et tout ça, il fallait le payer. Mais il y avait des gens qui avaient l'argent pour ça. Il y avait des idéalistes qui avaient ça. Et ils ont réussi à faire de Auroville un endroit qui aujourd'hui attire des milliers de personnes, beaucoup de Français. Moi, j'ai des copains qui ont travaillé avec moi dans la télévision, qui sont partis à Roville pendant plusieurs années, justement pour changer d'air, on va dire. Quand on a un peu ras-le-bol de nos sociétés occidentales où ça va mal, où le problème de travail, problème de ci, problème de là, à la limite, je dirais, aller faire un tour à Roville. Et vous y resterez tant qu'il faudra. Il y a des endroits de méditation, il y a des endroits où vous allez pouvoir discuter avec des prêtres, des endroits où vous allez pouvoir discuter avec des gourous, des maîtres, des sages. Il y a des hindous, il y a des européens, il y a tout le monde. Et vous allez rechercher une essence, vous allez pouvoir, si vous voulez être tout seul dans votre petit coin, vous pourrez. Et finalement, si vous voulez créer, travailler, il y a des centres où on peut travailler la soie, des centres où on peut travailler le papier mâché, des centres où on écrit, des centres... Donc c'est une ville, finalement ça bouge. C'est pas une ville qui s'est retirée du monde, c'est une ville où ça bouge beaucoup et où des gens qui ont beaucoup d'idées personnelles viennent créer là-bas. Mais bon, personnellement, moi je sais pas si je serais vraiment attiré par Auroville, parce que moi le côté de dire, surtout au début je me rappelle, l'argent n'existe pas, le pouvoir n'existe pas, quand ils ont commencé à créer Auroville, le pouvoir automatiquement est venu, parce qu'il y en avait qui avaient plus d'idées que d'autres, donc ils essayaient d'imposer leurs idées, donc c'était le début d'Auroville. Donc aujourd'hui, Auroville, il y a plus de 40 à 50 nationalités qui habitent là-bas, c'est toute l'Europe. C'est l'Amérique, c'est l'Asie, c'est le Japon, tout le monde est là-bas et tout le monde se retrouve sous le Matrimandir, hein, souvent le centre spirituel et physique qui est le centre de Auroville. Donc c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut retenir de Auroville, on essaye d'avoir une fraternité, une harmonie entre les hommes. Et aujourd'hui, pour le voyageur qui voudrait aller visiter Auroville, ben allez-y en toute liberté. C'est très facile, hein, de prendre un taxi, par exemple, de Pondichéry, et d'aller visiter, passer quelques jours. De toute façon, vous avez des hôtels, vous pouvez y dormir. Il y a aussi des dharamsala, il y a tout. Donc c'est assez facile. Et oui, on va dire quand même que c'est quand même fascinant comme endroit, parce que il est unique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où des communautés se sont lancées comme ça pour dire tiens, on va faire comme une nouvelle capitale du monde où tout est différent, où l'argent n'existe pas. Donc, mais avant tout, il faut y aller, je pense. Il faut avoir des idées un peu spirituelles, un peu assez ouvertes de ce niveau-là. Si on reste trop terre à terre, je ne sais pas si Auroville sera le bon endroit pour vous aller.
En tout cas, moi, j'avais trouvé ça intéressant, même si c'était une visite express dans notre cas. On avait passé quoi, une demi-journée là-bas, même pas quelques heures, pour au moins voir le Matrimandir et voilà, s'imprégner un petit peu du lieu. Mais moi, je trouve que c'est une visite presque indispensable quand on est là-bas, quand on est à Pondichéry. C'est vraiment trop dommage de pas y aller, quoi, de pas aller voir et se faire son idée. Bon, alors quittons Pondichéry et Auroville et commençons la grande route des grandes villes et des grands temples sacrés du Tamil Nadu. Et il y en a un paquet. Alors, on va commencer par où là? Où est-ce que la route nous mène ensuite?
Bon, après cette visite de Pondichéry, donc qui est un petit peu une aparté dans ce Tamil Nadu immense, quand on voyage au Tamil Nadu, donc on part à la rencontre des grands temples des dynasties, des différentes dynasties, les dynasties Chola par exemple, les dynasties Vijayanagar ou les dynasties des Pandya. Donc moi, il y a un endroit que j'aime beaucoup, que j'ai visité à deux reprises, c'est Tirukalikundram. D'abord, qui se trouve pas très loin de Mamallapuram. Et au bord de la mer, au milieu d'un entouré de rizières, et d'un seul coup, au milieu, c'est comme s'il y avait un énorme rocher qui sort comme ça au milieu des rizières et des pains de sucre et des cocotiers. Et bon, c'est un endroit où beaucoup de mendiants viennent, beaucoup de dévots, et on monte des escaliers interminables pour monter au sommet de ce rocher, au sommet de ces collines. Et au sommet, il y a un temple. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que j'aime Tirukalikundram, c'est qu'il y a un prêtre qui tous les jours est là-bas et qui le matin vient donner manger à deux aigles. Donc les aigles blancs qui viennent manger dans sa main. Et ce sont des aigles qui sont énormes en plus. Et ils viennent manger dans sa main. Donc la première fois, les aigles ne sont pas venus. La deuxième fois, les aigles étaient là. Donc j'ai pu les voir. Et de voir ce prêtre qui amène à manger comme ça, et de voir ces deux grands aigles qui viennent avec tous les dévots qui sont autour, avec tous les mendiants qui sont sur les marches en train de demander des sous et tout, comme l'Inde nous est coutumière. Mais de voir ce prêtre, torse nu, avec son dhoti blanc, comme ça, avec la main tendue, et les aigles qui venaient comme ça à manger, c'est une image dont je me rappelle. Parce que l'ambiance, la région est tellement verte autour que c'était fabuleux. J'ai appris il y a quelques années que maintenant les aigles ne viennent plus. Alors, est-ce que c'est dû à la pollution? Je sais que peut-être que les aigles sont morts aussi. Donc, Thirukkalikundram restera pour moi. Et même, c'est un endroit qu'on peut toujours visiter parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un lieu de pèlerinage. Voilà, Thirukkalikundram. Et quand on part aussi donc de Mamallapuram et qu'on part dans le centre du Tamil Nadu, en direction de Madurai par exemple, donc on commence la route des grands temples. Alors après, ça va à droite, ça va à gauche, on prend des petites routes, et là, on va rencontrer une multitude de temples qui sont absolument extraordinaires. Là, le mot extraordinaire que j'emploie souvent, là, je peux le dire parce que les temples que l'on voit en Inde du Sud peuvent dépasser en magnificence tout ce que l'on peut voir partout en Inde, et je dois dire en Asie. Parce que ce que les dynasties ont fait, comment les gens sont allés graver des piliers, sont allés faire des coupoles, des personnages, des statues, ça dépasse l'entendement. Et je dirais qu'il y a presque en Inde qu'on peut voir ça, quoi.
Oui, et en plus ces temples sont vraiment très différents de ce qu'on voit ailleurs en Inde, quoi. C'est des espèces de pyramides comme ça, élevées vers le ciel avec des multitudes de personnages de plein de couleurs. Enfin, c'est vraiment très particulier et c'est propre à cette région de l'Inde, hein.
Ah oui, l'Inde du Sud se différencie totalement de l'Inde du Nord. Oui, en Inde déjà, il y a deux parties, il y a l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. Bon, je ne vais pas parler des régions tibétaines, où là carrément on parle tibétain, mais sinon, donc il y a l'hindi, qui est la langue véhiculée dans tout le Nord, et dans le Sud, donc il y a la langue tamoule. Hein, il y a la langue, le malayalam, comme on dit aussi. Ce sont des langues très différentes, l'écriture est différente. Donc déjà, on a affaire à deux civilisations qui sont différentes. Et les temples qu'on voit en Inde du Sud... Je dis pas qu'il n'y a pas une ressemblance parfois dans certains endroits, mais ils sont complètement différents, notamment dans les coupoles, dans ces gopurams, qui sont ces toits immenses qui montent dans le ciel, qui peuvent faire jusqu'à 40 mètres de hauteur pour certains, quand on va à Madurai ou quand on va dans d'autres villes saintes. Et tout travaillé, décoré, peint, avec des personnages par milliers, des personnages mythiques, des animaux. Donc, c'est toute la vie de l'Inde mythique, la vie de l'Inde religieuse qui passe par ces immenses gopurams. Donc, ça, vraiment, c'est l'essence même de l'Inde du Sud. Bon, quand on arrive à Kanchipuram, qui est une des premières grandes villes saintes, fait partie des sept plus grandes villes saintes de l'Inde, et notamment du Tamil Nadu. Ce sont des temples déjà qui datent du 6e, du 7e siècle, donc déjà il y a 1500 ans en arrière. Et Kanchipuram, par exemple, a été la capitale de grandes dynasties des Pallavas. Bon, je ne vais pas revenir sur le côté historique de tous ces princes, mais que ce soit les Pallavas, que ce soit les Cholas notamment, qui est une dynastie très importante en Inde du Sud, parce qu'elle a créé la plupart des temples de l'Inde du Sud, notamment avec ces fresques, ces structures. Donc, ça reste quelque chose, donc. Et quand vous êtes donc à Kanchipuram, vous ne pouvez pas passer à côté de deux ou trois temples, notamment le Kamakshi Temple et le Ekambaveshravara Temple, qui sont des temples justement, comme j'explique, avec des couloirs, avec des piliers, avec des gopurams qui sont superbes. Voilà. Donc c'est la route.
Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip, qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse, conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verylocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, c'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview.
Quand on part au Tamil Nadu, donc il faut avoir une bonne voiture, un bon chauffeur, parce que vous savez que l'Inde et ses routes, c'est pas toujours facile. Soit les routes sont pas assez larges et elles sont bombées, donc tout le monde roule au milieu de la route. Mais quand on part avec un bon chauffeur, maintenant il est certain qu'on n'a plus les vieilles voitures, les vieilles ambassadeurs de l'époque. En Inde du Sud, il reste plus qu'en Inde du Nord. Et donc, moi je vous conseille. partez dans une Ambassadeur, elle marche bien en plus. On est assis derrière comme des Tintins dans les BD. Moi, ça me fait toujours penser un peu à des Arondes, les vieilles voitures françaises. Partez en Ambassadeur avec un chauffeur, vous verrez, c'est hyper confortable. Et vous allez comme ça, de ville en ville, où à chaque fois, vous allez trouver des petits hôtels extraordinaires, soit à côté des temples, soit carrément en pleine campagne, au milieu de plantations, et où vous serez servi comme un roi. Donc ça, c'est bien. Donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut visiter l'Inde du Sud. À Kanchipuram aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est un des centres du Tamil Nadu sur la culture de la soie, le travail de la soie. Et vous avez de nombreuses fabriques de textiles, justement, en soie, et qui vaut la peine d'être visitées, parce que il y a des saris de toute beauté, et notamment, c'est pas du tout le même style que l'on trouve, par exemple, au Rajasthan, où là aussi, on peut voir des tas de soieries, etc. Donc, on trouve pas mal de styles ethniques aussi dans l'Inde du Sud. Donc, vraiment, à Kanchipuram, profitez de votre arrêt pour aller visiter une fabrique de soie.
Ah non, ça c'est intéressant, on avait raté ça nous en l'occurrence, bon on avait qu'une dizaine de jours et on voit déjà qu'il faut beaucoup de temps pour découvrir ce Tamil Nadu, la route est longue, alors où est-ce que la route nous mène ensuite?
Si nous continuons notre route, parfois on sera surpris que le Tamil Nadu ce n'est pas uniquement des grands temples. Cela, on va les voir, on va y revenir. Mais parfois, comme ça, on tombe sur des sites qui sont absolument aussi intéressants, comme le fort de Vellore, par exemple, donc, qui est pas très loin de la ville de Vellore. Il y a un fort qui s'appelle le fort d'Arcot, et qui a été construit par les Anglais en résistance contre les Français. Donc, vous avez des immenses douves avec forteresses, avec des murs d'une épaisseur pas possible. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter au fort de Vellore. C'est sur la route en plus, donc c'est bien. Tout comme, pas très loin non plus, vous avez le fort de Gingy aussi, qui est une mini muraille de Chine. Quand on part, c'est dans des collines. En plus, la route est toute en virage et on arrive sur ce fort de Gingy. Prenez le temps de vous arrêter. Vous avez, je dirais que c'est un exemplaire remarquable de la façon dont les militaires ont su construire des murailles. Moi, les murailles qui m'ont le plus impressionné en Inde jusqu'à maintenant, c'est la forteresse de Kumbalgarh au Rajasthan, qui m'a toujours impressionné et qui est dans un environnement extraordinaire. Alors, si on va en Inde du Sud, bon, c'est tout différent, mais ce fort de Gingy, jusqu'au sommet, où il y a un temple de Krishna qui domine toute la vallée, vraiment, je vous conseille de faire l'effort d'aller jusqu'au sommet. Très beau. En plus, c'est très facile. Il y a des chemins qui sont confortables. Donc, j'aime beaucoup. À côté, vous avez une fois de plus un endroit qui est une des cités les plus sacrées du Tamil Nadu, c'est Thiruvannamalai, qui est un endroit aussi où Shiva a eu une apparition. Il est lui-même est apparu comme une colonne de feu, donc pour montrer son pouvoir par rapport. L'hindouisme est une trimurti, hein, c'est trois dieux, donc c'est Shiva, Brahma, Vishnu. Brahma est le dieu créateur, Vishnu qui est le dieu protecteur et qui peut être aussi le dieu de la guerre, et Shiva bon, qui est le dieu suprême, le dieu destructeur. Donc le jour où Shiva est apparu en une colonne de feu, il a voulu montrer par rapport à Brahma et à Vishnu que c'était quand même lui le chef, c'était lui le plus fort. Voilà. Donc quand on va dans ces temples, un peu partout, quand vous allez passer dans ces grands temples Tamil Nadu, cette histoire entre Shiva, Brahma, Vishnu ressortira. Et ce qui est intéressant dans ces grands temples, justement, avec un immense gopuram, comme au temple de Thiruvannamalai, c'est que devant, vous avez toujours, on le retrouve un peu partout au Tamil Nadu, des grandes piscines avec des ghats, donc ces escaliers qui descendent jusqu'au bord de l'eau. Ben vous regarderez, l'eau n'est pas toujours très propre parce qu'il y a les gens, il y a les vaches qui viennent pisser, il y a les femmes qui viennent laver leur linge, il y a le gars qui se lave les dents à côté, et puis tout le monde vient se baigner parce que ce sont quelque part toujours des endroits sacrés. Et c'est intéressant de voir justement ces immenses piscines comme ça, qui sont parfois immenses, et qui sont au bord de ces immenses gopurams. Donc voilà, vous avez un exemple parfait, en allant à Thiruvannamalai, de ce fort, le gopuram, de ce temple, avec son gopuram et devant les piscines sacrées. Donc ailleurs dans ce Tamil Nadu, nous continuons notre route. Et si vous voulez, il est compliqué de dire, tiens, on va prendre telle route, on va voir tel temple. C'est un ensemble. Parfois, vous allez tourner à gauche, vous allez arriver par exemple à Chidambaram, qui est pareil, qui est un site sacré, extraordinaire, avec le dôme du toit, le toit au dôme devant le Gopuram en or. Et là aussi, Chidambaram est très sacré parce que là, c'est Shiva. On croit que Shiva est venu ici puis il a fait sa danse cosmique. C'est-à-dire que quand il a lancé sa danse cosmique, il a prouvé qu'il était le plus fort, qu'il émergeait dans l'histoire et dans la mythologie, voilà, comme le roi, comme le chef. Donc c'est très important. Donc c'est pour les hindous. Chidambaram est un des temples les plus sacrés parce que justement le fait que Shiva ait fait cette performance de danse cosmique, ça a une importance capitale dans l'hindouisme. Donc il y a un temple aussi à Chidambaram qui est extraordinaire, c'est le Nataraja Temple, qui a été construit aussi à l'époque des Cholas, donc les grandes dynasties, sont des temples qui ont plus de 1000 ans de toute façon, entre 1500 et 1000 ans, entre 1000 ans et 1500 ans. C'est à peu près toujours les mêmes dynasties et les mêmes temps. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quand même aussi toujours ces Gopurams avec toutes ces fresques, ces statues, des personnages, des animaux. C'est fabuleux. Dans notre longue route à travers les temples du Tamil Nadu, votre chauffeur vous arrêtera à Kumbakonam, qui est là aussi, comme Kanchipuram, c'est un des grands temples, un des endroits les plus sacrés du Tamil Nadu. En plus, ça se trouve sur les bords de la rivière Kaveri. Cette rivière Kaveri, là, quand je vous disais que si on peut aller faire un tour vers les chutes, c'est assez fabuleux. Bon, après, c'est une rivière qui prend son cours normal. Mais Kumbakonam a un temple aussi pareil avec Gopuram, avec un très long temple aussi avec des couloirs, donc très décoré. Donc ça vaut la peine de s'y arrêter. En plus, il y a les chariots, lors des grands festivals à Kumbakonam, on ressort les chariots du temple, avec des roues qui sont immenses, des chariots qui pèsent des tonnes, tirés. À une époque à dos d'éléphant, mais parfois quand il y a des grands festivals, ce sont les hommes qui les tirent. Donc vous pouvez avoir, j'ai vu ça aussi à Katmandou une fois, des dizaines, des centaines de personnes qui tirent ces chariots au milieu de la ville. Parfois ça passe pas, on tire à gauche, on tire à droite. Et voilà, donc c'est l'Inde. C'est toute l'Inde. En plus, dans la région de Tanjavur, puisqu'on arrive sur Tanjavur, ce qui est intéressant pour parler autre aussi, c'est l'art, l'artisanat de toute cette Inde du Sud. Les bronzes de Tanjavur sont absolument fabuleux, parce que si vous voulez acheter des statues en bronze de divinités ou de personnages, c'est la ville pour trouver des statues de bonne qualité. En plus, la musique. La musique fait partie aussi de l'art du Tamil Nadu, la musique carnatique, comme on l'appelle. Donc on retrouve des tas d'instruments comme le gattam, qui est en fait une calebasse, mais en grès, hein, un pot de grès. Et le musicien, quand il arrive à taper avec tel que les Indiens seuls sont capables de le faire, ça donne... Ça donne un ton à la musique, notamment avec quand les musiciens jouent du violon en plus, et ils peuvent jouer aussi de différents instruments comme la vina. Donc le tout fait que la musique indienne est quelque chose. On a toujours connu la musique indienne. Bon, tout le monde va vous dire, ça représente quoi la musique indienne pour toi? Bon, c'est le sitar au départ. Après, il y a la vina, il y a des violons, il y a les ganduras, il y a tout ça. Mais bon, tout le monde a connu Ravi Shankar, ce génie de la musique qui habitait Calcutta. Et j'ai eu la chance de le voir d'ailleurs, Ravi Shankar. Une fois, j'étais à New Delhi, je vois un concert Ravi Shankar. Moi qui étais fou à l'époque où j'écoutais les Beatles, et puis le Maharishi Mahesh Yogi, le Ravi Shankar qui rentrait un petit peu dans la musique de l'Europe, tout ça, avec un mélange d'influences de tous bords. Je suis allé voir Ravi Shankar. Et je peux vous dire qu'au départ, j'ai été très déçu, parce qu'il a mis à peu près 45 minutes pour accorder son sitar. Donc il ne se passait rien. Je me suis dit, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le concert a dû durer 6 heures. Donc j'ai pas tenu les 6 heures parce que après j'étais occupé, je devais partir, mais bon, j'avais vu le personnage quoi. Et quand tu vois ce personnage assis qui est dans un autre monde ailleurs, avec à côté son musicien préféré qui jouait du tabla à la raca. Ça restera quand même quelque chose de marquant pour moi.
Voilà, donc on arrive à Tanjavur. Donc évidemment, on va parler de son temple. Moi, c'est un des temples les plus beaux que j'ai vus, en tout cas en Inde du Sud, c'est sûr, certainement aussi en Inde. J'avais fait une belle photo d'ailleurs, que je me rappelle très très bien, en fin de journée, avec une magnifique lumière et puis des oiseaux dans le ciel qui étaient juste au-dessus du temple. C'était fabuleux. Bon, bah, parlons de Tanjavur.
Voilà, donc on passe à Tanjavur. Tanjavur qui est une capitale aussi des arts, donc on peut voir de la musique. Il y a de très belles peintures dans cette cité. Mais surtout, bon, on s'arrête à Tanjavur pour voir le Brihadishvara Temple, qui est un monumental temple de granit. Très certainement un des temples les plus, le plus fin et le meilleur exemple de la dynastie des Cholas. Par son architecture, et bien sûr qu'il est devenu un héritage mondial au patrimoine de l'UNESCO. Il date à peu près de 1000, il a plus de 1000 ans, quoi qu'il en soit. Et c'est un temple qui est dédié à Shiva. Parce que quand on regarde son Gopuram, de toute façon, c'est comme un lingam. Un lingam, donc, c'est la force de Shiva. Le lingam de Shiva, l'élévation vers les cieux. Donc, ça représente toujours, de toute façon, les temples représentent toujours le lingam de Shiva. En fait, le temple de Tanjavur est un temple sous-sol. Donc, avec des colonnades immenses. Et quand on rentre comme ça dans ce sous-sol et qu'on découvre les inscriptions qui donnent les détails aussi de tout ce que l'époque des Cholas, toute l'administration de l'époque des rois, tout ça est inscrit dans la pierre. Donc c'est assez extraordinaire. Et ça nous donne donc justement, historiquement, ça nous donne un petit peu une compréhension de ce qu'était la vie des Cholas, ces grands princes Cholas. Quand on va dans ce temple grotte, on peut dire, il y a plein de choses. Donc il y a le Vimana déjà. Le Vimana, donc c'est la pyramide qui fait plus de 60 mètres de hauteur. Vous avez des personnages gigantesques qui sont gravés sur les murs du temple. Des fresques de toute beauté, encore avec des couleurs de vert, de rouge, qui datent après, donc à partir du XVIIe siècle. Si vous vous promenez dans la cour intérieure, et vous avez une vue d'ensemble du temple, bon, vous pouvez faire des photos extraordinaires. Donc de ces temples, de ces vimanas, de ces gopurams. Et en plus, souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des sadhus qui sont là-bas, des moines, et puis tous les serviteurs du temple. Donc ils sont habillés avec leur dhoti rouge et jaune, donc des couleurs des princes Cholas. Donc ça fait quelque chose d'extraordinaire. En plus, il y a un taureau Nandi, donc qui est la monture de Shiva, qui est dans un angle du temple en granit noir, qui vaut la peine d'être vu, et des statues de Shiva et de Parvati à gogo, comme on dit. Donc voilà, donc visiter Tanjavur, je pense que ça vaut la peine. Quand on continue sa route, on passe par Tiruchirappalli. Donc la Tiruchirappalli, c'est dans une vallée très fertile aussi, où il y a beaucoup de rizières, et qui est près du delta du Kaveri. On passe, bon, il y a encore des temples à droite à gauche. Il y a un fort en plus sur le fort Tiruchirappalli, où il domine la ville. Donc il y avait à l'époque des rois ou des princes qui avaient mis leur nid d'aigle au sommet, donc ils étaient... Il était impossible de les capturer, quoi. Notamment à Tiruchirappalli aussi, il y a la cathédrale de Notre-Dame de Lourdes. Donc elle a été construite au 19e siècle, dans les années 1840, par un jésuite, Saint-Joseph. Donc elle vaut la peine d'être visitée, parce qu'elle a un style très particulier. Ce qui est marrant en plus, c'est que cette église, elle ressemble aussi comme les gopurams. elles montent très haut dans le ciel. Et quand vous avez très proche finalement des temples aussi où les gopurams montent très haut, comme ça, les vimanas, voilà, peut-être qu'il y avait une certaine influence. Hein. On continue son chemin et on arrive à Sri Rangam. Vous voyez, donc on pourrait comme ça, je pourrais parler des heures des temples de l'Inde du Sud, parce que partout il y a des grandes villes saintes. Et Sri Rangam encore, c'est une ville sacrée. Elle est en plus à la confluence de deux rivières, la rivière Kaveri et la rivière Kolidam. Et donc déjà l'endroit qui a été choisi est très beau. Elle a un grand temple aussi, le Ranganatha Temple, qui est dédié à Vishnu par contre là. Donc, dit Vishnu, le dieu protecteur. Il y a peu de temples de Vishnu en Inde. Shiva est le prince. Dans toute l'Inde, on voit des temples qui sont dédiés à Shiva. Des temples de Brahma, le plus important, c'est à Pushkar. Donc, avec ce lac où Brahma il aurait déposé une fleur de lotus et ça aurait créé un lac. Et le plus grand temple de Vishnu que l'on a en Inde, c'est près de la ville de Bhubaneshwar, à Puri, qui est au bord de la côte, où là vraiment, d'ailleurs les non-hindous ne peuvent pas rentrer, où il y a des milliers de personnes qui travaillent dans le temple avec des immenses gamelles où on fait cuire des tonnes de riz, je vais dire, où on fait bouillir des milliers de litres de lait pour tous les pèlerins qui passent. Moi, ça m'a marqué, Puri, parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent pour des millions de personnes, on va dire. Tous les mendiants qui sont là, qui n'ont rien à manger, gratuitement, on leur donne. Donc ils mangent, ils boivent, et ce sont... qui est-ce qui paye tout ça? Bon, ce sont les donations, les riches marchands, ou les riches hindous, quoi, qui donnent tout le temps, il faut toujours donner. Donc pour en revenir à Sri Rangam, ce temple qui est dédié à Vishnu, c'est un des temples les plus larges, les plus grands du Tamil Nadu, et en plus... il est sur un espace, je ne sais pas moi, de plus de 50 hectares. Donc c'est encore un temple à voir, de jour à voir cet immense gopuram qui s'enfonce, je dirais, dans le ciel bleu. C'est extraordinaire. Voilà. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé de la rivière Kaveri. Donc là, on est très près de la Kaveri. Et si vous avez envie à Sri Rangam de faire une balade sur la Kaveri, vous pouvez partir sur un coracol, qui sont ces petites barques rondes en peau de buffle, avec tressées avec du bambou. Et on se laisse descendre comme ça au fil du fleuve. Mais bon, ça va, les chutes sont très loin, donc on n'a pas allé là-bas, mais c'est toujours marrant. Mais quoi qu'il en soit, une balade en coracol, comme on les appelle, il n'y a pas deux endroits plus beaux au monde que d'aller les faire dans la cité mythique et magique de Hampi, dans le Karnataka.
Ouais, le merveilleux site d'Hampi au Karnataka, on en a parlé dans l'épisode, c'était l'épisode 53, qui était sur le Karnataka et Goa. Voilà, moi j'ai pas encore l'occasion d'y aller à Hampi, mais c'est clairement, ça fait clairement partie de la liste. Bon, alors on va continuer la route. Voilà, des temples, il y en aura encore, je pense, des centaines ou des milliers peut-être à découvrir, mais bon, on va peut-être commencer maintenant à aller vers l'une des villes les plus sacrées du Tamil Nadu, c'est Madurai.
Dans ce voyage à travers le Tamil Nadu en allant toujours vers l'ouest, il y a des centaines de temples partout. Donc on ne va pas tous les mettre parce que sinon c'est une émission qui durerait 3 heures. Mais bon, on arrive à Madurai. Madurai avec peut-être le plus grand temple du Tamil Nadu, célébration de la beauté de Menakshi. Et donc c'est pour ça qu'on visite le temple de Menakshi. Et comment expliquer ce temple de Madurai? C'est un temple qui a 2000 ans. Donc au départ, depuis 2000 ans, il a été magnifié, embelli, agrandi, pour en faire l'un des piliers de l'hindouisme de l'Inde, je dirais, un des grands piliers déjà de l'Inde du Sud. Rentrer dans ce temple de Menakshi, c'est d'abord un temple qui est dédié à Shiva, qui est dédié surtout à Parvati aussi, qui est la femme de Shiva. Donc c'est pour ça que ce temple a été magnifié, c'était pour magnifier justement la beauté de Parvati. Un temple qui a été créé donc par la dynastie des Pandya aux environs du 7e, 10e siècle, un temple qui a plus de 1000 ans. Si vous pouvez voir les dieux, toutes les divinités qui sont sur son gopuram, c'est un infini. Les couleurs, c'est un infini. Donc déjà, on reste en extase devant cet immense gopuram qui a des milliers, des dizaines de milliers de personnages sur une hauteur de plus de 50 mètres. Donc ça déjà, c'est le choc quand on arrive à Madurai, parce qu'on le voit très loin, ce temple de Menakshi, et de voir ce Gopuram peint, travaillé avec des éléphants, Shiva, Vishnu, toute la vie de ce qu'est l'hindouisme, du Mahabharata, du Ramayana, tous les personnages par dizaines de milliers se retrouvent ici, travaillés sur ce Gopuram. Donc on peut imaginer le travail des, je dirais même des orfèvres presque, tellement que c'est travaillé, c'est un travail d'orfèvre. Ensuite, quand on veut explorer le temple de Menakshi, bon déjà quand on rentre à Madurai, Madurai est une grande ville sainte. C'est une ville où tous les hindous du Tamil Nadu vont. C'est une ville où il y a les riches, les pauvres, tout le monde, des marchés, des petites ruelles où ça sent bon le cumin, où ça sent bon le garam masala, les poudres, vert, rouge, bleu, c'est des couleurs, des fleurs et tout. Donc partir déjà à travers les ruelles de Madurai, c'est déjà une aventure en elle-même. Et quand on arrive devant cet immense temple de Menakshi et qu'on commence à l'explorer, il faut commencer par un côté, quoi. Donc je ne vais pas tout vous dire ce qu'il faut voir. Chaque voyageur découvrira par lui-même cet immense temple. Quand vous rentrez dans les corridors et que vous voyez ces piliers avec des statues, comment ça a été gravé, il n'y a pas de discussion. Je pense que personnellement, c'est peut-être les choses les plus belles que j'ai vues dans des temples indiens. Quand on rentre dans le hall des 1000 piliers, donc c'est un hall qui est monumental, avec, comme je vous disais, les piliers qui sont gravés, des chevaux, des éléphants. Quand on regarde le toit qui est des couleurs dans les verts, dans les rouges, dans les ocres, dans les ors, avec des lumières et qui sont très bien travaillées, c'est un palais des mille et une nuits. Je ne vais pas dire que c'est Versailles, mais c'est, je ne sais pas comment on peut le comparer, mais c'est absolument c'est fabuleux, quoi, voilà. Dans le Menakshi Temple, ce sont des hectares de découvertes et d'enchantements à travers tous ces corridors, ces pièces, ces piscines. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. Quand on dit 1000 piliers, il y en a 985 exactement. Je ne les ai pas comptés, mais on peut très bien le lire dans les livres où l'Indien qui sera à l'entrée, qui essayera de vous emmener à travers, vous dira voilà les 985 piliers. Puis ouvrez vos yeux parce que c'est ça Madurai. Et surtout, il faut aller se perdre dans la foule, se mélanger aux Indiens, et c'est là qu'on a vraiment l'âme de l'Inde du Sud. Madurai en est certainement, très certainement, un des meilleurs exemples.
Je suis entièrement d'accord et je me rappelle avant d'aller au Tamil Nadu, tu m'avais dit tu vas voir, tu vas adorer Madurai, ça grouille dans tous les sens, c'est vraiment l'Inde dans toute sa ferveur, et ce temple de Menakshi qui est vrai est une merveille. Je me souviens en fait des très belles photos dans le temple et autour, c'est un très très beau souvenir. Bon Thierry, je pense que voilà, on pourrait continuer, hein, on l'a dit plusieurs fois, c'est infini, mais il va falloir quand même qu'on s'arrête là, parce que je pense que c'est déjà un très très beau panorama du Tamil Nadu. Je crois que tu as juste une dernière petite chose, pas très loin de Madurai, à faire découvrir.
Alors ce que j'aime en Inde du Sud aussi, voilà, donc les plus grands temples ont été faits, vous m'excuserez si j'en ai oublié, parce qu'il y en a tellement, et il y en a d'autres qui sont extraordinaires, mais ce que j'aime aussi dans l'Inde du Sud, ce sont les sanctuaires de vie animale, notamment donc dans la région de Mudumalai, qui se trouve très près du Kerala, et là, dans les Nilgiri en fait, exactement, les montagnes des Nilgiri, qui sont de très vieilles montagnes. C'est comme une arête qui traverse le sud de l'Inde, qui sépare le Kerala du Tamil Nadu. Et dans cette zone, ben, y a beaucoup de réserves animalières où on trouve beaucoup d'éléphants sauvages, des gores, des tas de singes différents. Voilà, ça vaut le coup d'aller partir, de dormir dans des mansions, des petites lodges qui sont superbes, où on vous donnera des confitures faites maison. Très british, on va dire, un petit peu. Et c'est fabuleux. Donc quand on part par exemple à Mudumalai, bon, on est sûr de partir voir des éléphants, voir une vie sauvage qui est extraordinaire. Et il y a un peuple que j'aime bien dans les Nilgiris, ce sont les Todas. Il n'en reste pas beaucoup. J'ai eu la chance, moi, il y a déjà plus de 30 ans, d'aller voir les Todas, donc ils gardaient un peu plus de culture. Ils vivent encore une vie primitive, très particulière. Les femmes, en plus, elles ont des grandes tresses sur les côtés, et les gens vivent sous la terre. Donc il y a quelques maisons, on en voit, c'est des huttes qui sont rondes, et ils ont aussi, eux, leur mode de pensée, comme un peu un lingam de Shiva, comme ça, qui est leur représentation un peu cosmique de l'univers. Donc les Todas, en fait, il y a plusieurs groupes, mais les Todas sont peut-être les plus connus, et ce sont des éleveurs, un petit peu, qui vivent dans la montagne, donc ils ont des buffles. Et ils ont un cosmos qui est complètement différent. Il n'en reste plus beaucoup, mais si vous passez à côté, allez faire un petit tour pour voir ces Todas. Et en plus, dans les Nilgiris, on peut faire des tas de trekking, ça vaut la peine, quoi.
Ah, les Nilgiris, je note, encore une chose à découvrir. De toute façon, l'Inde, c'est ça qui est à la fois fascinant et parfois un peu frustrant, c'est que c'est tellement immense, il y a tellement de choses à découvrir que voilà, on y passera une vie, et je pense même qu'on n'aura pas assez d'une vie pour découvrir ce pays, mais tant mieux, c'est un pays qui réserve toujours des surprises. Avant de se quitter, bon, on est obligé de parler de nourriture, parce que toi comme moi, on est des grands amoureux de la cuisine indienne et le Tamil Nadu, enfin le sud du pays dans son ensemble, mais le Tamil Nadu en particulier, c'est un régal pour la nourriture.
Ah ben, l'Inde du Sud, c'est comme l'Inde du Nord, hein. On ne peut pas finir une émission sur l'Inde sans parler de sa nourriture, parce que c'est quand même toujours c'est quand même extraordinaire. C'est que partout où vous allez aller, on va vous servir sur une feuille de banane déjà, des currys, du riz au safran, du riz au citron. On peut vous servir de la purée de lentilles aussi, ces fabuleux chutneys, comme l'Inde en a le secret. On va vous servir du riz même mélangé avec du yogourt. Vous aurez du riz au tamarin, des pancakes de riz, je dirais, du riz à la noix de coco, du riz à la tomate. Et ce qui est extraordinaire, donc à chaque fois, donc le poivre. Parce qu'en Inde du Sud, la culture du poivre notamment, donc, on le trouve aussi au Kerala, mais on le trouve aussi pas mal au Tamil Nadu. Le poivre fait partie intégrante des épices qu'on utilise en Inde du Sud. Vous aurez les pickles, la ferveur des odeurs. En plus, quand on est au bord de la mer, il y a des currys de poisson. Donc là, vous allez vous faire des ventrées de curry de poisson. Si par exemple vous êtes à Mabalipuram ou même à Pondichéry, quand vous êtes au bord de la rivière Kaveri, on vous fera des curry de poisson d'eau douce. Et c'est fou, avec les oignons, avec les papades. Ceux qui sont végétariens vont s'éclater en Inde du Sud. Et moi j'adore, parce que je ne suis pas un vrai végétarien. J'ai toujours plus aimé les légumes que la viande, mais finalement, quand on me met devant un plat végétarien, surtout en Inde du Sud, mais il y a 1, 2, 3, 10, 15 plats, toujours avec justement le riz, les tomates, tous ces épices et tout, les oignons qui sont bien coupés, puis c'est toujours bien présenté. Donc c'est un luxe pour les papilles, je vais dire, et vous verrez, partout où vous allez manger, en plus dans tous les petits hôtels auxquels vous allez vous arrêter au Tamil Nadu, vous verrez, on vous fera de la nourriture sublime.
Alors je confirme, les Thalis du sud de l'Inde, là, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. En plus, dans les restaurants, voilà, on nous sert un petit peu à volonté. Enfin, il y a tous les petits plats qui sont mis dans l'assiette, mais si on manque de riz ou si on manque de dalles, de purée de lentilles ou autre chose, il y a toujours quelqu'un qui vient pour nous remplir la gamelle. Donc ça, c'est très agréable quand on a faim. Et c'est vrai que voilà, il faut aimer les épices, mais en tout cas, c'est un vrai bonheur. Et la nourriture, quand même, enfin. On le dit, hein, mais c'est important, ça fait partie du voyage. C'est vrai que quand on ne mange pas bien, on a beau voir des beaux paysages, faire des belles rencontres, voir des beaux temples, etc. Ça gâche un petit peu le voyage. Et quand on mange bien, ça sublime, on va dire, les découvertes. Et l'Inde, pour ça, l'Inde du Sud, mais comme l'Inde du Nord, comme toute l'Inde, c'est vrai que c'est un vrai bonheur pour les papilles. Merci beaucoup Thierry pour cette nouvelle découverte de l'Inde, une de plus. On en est maintenant à pas mal d'heures d'interview sur ce pays. C'est toujours un si grand bonheur d'en parler avec toi. On te retrouvera de toute façon bientôt, hein. On va continuer, on n'est pas du tout au bout de nos peines, on a encore beaucoup d'endroits à découvrir. Je crois qu'on va aller plus tard dans le nord, vraiment dans le nord-nord, voilà, pour donner un petit indice. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure.
Voilà, je te remercie Romain de m'avoir encore donné la parole aujourd'hui pour parler de l'Inde que j'aime. Bon, le Tamil Nadu, vous l'avez compris, hein, c'est un État qui est religieux, c'est un État qui est magnifique. C'est un État qui a une influence française qui est forte aussi, donc à l'image de Pondichéry. Et à la fois, ça reste une Inde traditionnelle, parce que quand on sort de ces grands temples et qu'on est dans la campagne, on se retrouve tout de suite dans les rizières, avec les cocotiers. Vous passez souvent au bord des routes, comme ça, il y a des tas d'éléphants. Il y a le cornac qui est en train de le laver dans une rivière, donc vous vous arrêtez, vous faites des photos superbes. Plus loin, on voit encore plein d'éléphants qui sont en train de transporter des charges énormes et qui vont dans des villages. Donc moi, c'est ça que je retiens du Tamil Nadu. Merci, Romain. À bientôt.
Nous voilà au bout de ce 67e épisode de Sur les routes de l'Asie. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez bien voyagé en notre compagnie. D'autant plus avec ces petites musiques d'ambiance, car l'Inde, c'est vrai que c'est aussi ces musiques si particulières et si prenantes. L'Inde a cela de fascinant que c'est un voyage qui ne s'arrête jamais ou presque. Il y a tant de splendeur à découvrir et vous avez pu vous en rendre compte une fois de plus aujourd'hui avec tout ce que Thierry nous a raconté sur le Tamil Nadu. Comme d'habitude, pour retrouver les noms évoqués, et il y en a pas mal dans cet épisode, vous pouvez vous rendre sur le site web à l'adresse suivante, surlesroutesdelasie.com/67. Puis pendant que vous y êtes, vous le savez, je compte beaucoup sur vous pour me donner un petit coup de projecteur en me laissant une note et un commentaire dans Apple Podcast. C'est une des façons les plus efficaces pour faire découvrir le podcast à d'autres. Ça vous prend deux petites minutes et pour moi, ça représente vraiment beaucoup. Je vous assure qu'à chaque fois que je reçois un commentaire, c'est un petit rayon de soleil qui me pousse à continuer, car oui, le monde du podcast, c'est un petit peu solitaire, je vous avoue. On parle devant son micro et on n'a pas vraiment de retour des auditeurs. Donc c'est un moyen simple et rapide de me donner votre ressenti et pourquoi pas de me donner vos idées et suggestions. Aujourd'hui, j'aimerais citer Fiacre de CH qui a mis 5 étoiles en disant « Les Moluques, ce n'était pas sur ma liste. Maintenant, ça y est, je veux voir le Dukono. Merci à tous les deux. Par contre, je vais au Raja Ampat dans un mois. Vous aviez parlé d'un prochain épisode sur cette destination. Amitié et vive les voyages. » Fin du commentaire. Merci beaucoup à toi. En plus, tu n'en es pas à ton premier commentaire. Donc c'est très sympathique de revenir me donner des nouvelles. Les Raja Ampat, oui, on en a parlé plus tard après ton commentaire dans l'épisode 61. Je suis sûr que tu ne l'as pas raté et j'espère que tu as passé un très bon voyage. Et n'hésite pas à me faire un retour sur les Moluques si finalement tu y allais aussi. Et puis vous le savez, pour m'aider financièrement cette fois à continuer le podcast, vous avez sa page Tipeee où vous pouvez contribuer à partir d'un petit euro par épisode. Le lien est en description de ce podcast et sur mon site web. Et puis sachez que les fonds récoltés m'aideront à financer l'hébergement du podcast, mais aussi le matériel nécessaire. Et si j'arrive à en collecter assez, à vous garantir plus d'épisodes et ce de manière plus fréquente. Bon, je sais qu'il y a encore quand même pas mal de travail, mais justement, si vous pouvez m'aider à aller dans ce sens, eh bien, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Merci beaucoup. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.